premiers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, émission présentée par Michel Leduc. L'invité est le climatologue Éric Guillardy. Éric Guillardy est directeur de recherche CNRS au laboratoire L'Océan de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Il est président de l'Office for Climate Education sous l'égide de l'UNESCO. Il est membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Alors, il a été aussi un des auteurs principaux du 5e rapport du GIEC. Et il est actuellement au COMETS, le comité d'éthique du CNRS, dont j'ai fait partie au précédent mandat, et d'où nous avons reçu la présidente Christine Noiville à cette antenne en mai 2024. Éric Guillardy, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'alarme est mondiale concernant les effets du réchauffement climatique. Ils ont été prévus par les scientifiques du GIEC, dont vous avez fait partie, et confirmés par de multiples observations ces dernières années. On a assisté à des canicules, des inondations, mais aussi des sécheresses, des méga-feux, etc., etc. Pouvez-vous nous expliquer quels risques le changement climatique fait courir aux sociétés et aux écosystèmes ?
Alors, effectivement, le réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre, elle-même due à la combustion des énergies fossiles, que sont pétrole, charbon et gaz dans le sous-sol, amène à plusieurs conséquences. D'abord, le réchauffement de la surface de la planète, que ce soit la basse atmosphère, l'océan, les surfaces continentales, mais aussi la modification des régimes de pluie ou des extrêmes météo. Et alors, il y a un certain nombre d'autres impacts, vous en avez parlé, des feux et nombreuses. Donc, c'est un risque additionnel pour le vivant de façon générale, c'est-à-dire les écosystèmes et aussi nous et nos sociétés. Et en fait, le risque, on peut le voir, et le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui permet vraiment de l'illustrer, le risque, c'est l'aléa, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement extrême se passe. Et on voit qu'un réchauffement du climat, la fréquence de certains événements extrêmes, canicule, inondation, augmente. Donc c'est le risque, c'est l'aléa que multiplie l'exposition, que multiplie la vulnérabilité. Donc, c'est sur ces trois aspects qu'il va falloir travailler pour limiter les risques.
Alors, pour limiter ces risques, certains proposent d'avoir recours à des technologies, on les appelle les technologies de géo-ingénierie. Je crois qu'elles sont multiples. Il y a des techniques et il y a aussi des recherches. Alors, en quoi consistent-elles exactement ? Et quels en sont les enjeux ?
Alors, c'est effectivement, plusieurs termes existent, la géo-ingénierie, qui est une forme de modification artificielle et volontaire du climat, puisque nous modifions déjà le climat de façon involontaire, par nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, on peut aussi utiliser les termes de manipulation, voire d'intervention. Il y a un certain nombre de vocabulaires utilisés. Et en gros, il y a deux grandes familles de géo-ingénierie. La première qui est de capturer les gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, pour l'extraire de l'atmosphère et le stocker, par exemple, dans le sous-sol. Et l'autre famille qui est d'aller modifier le rayonnement solaire, c'est-à-dire limiter la quantité de soleil qui arrive dans le système climatique pour le refroidir.
Oui, alors, quels sont exactement les enjeux politiques ? Parce que toutes ces affaires sont politiques. La capture du CO2 implique des choix politiques, de la part des gouvernements, de la part des entreprises. Et donc, la modification du rayonnement solaire, vous allez nous en parler très bientôt. Mais pour la capture du CO2, vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments.
Alors, la capture du CO2, aujourd'hui, il y a des techniques donc de captage dans l'atmosphère ou alors de captage en sortie de centrales à charbon ou à pétrole. Il y a des démonstrateurs industriels qui existent. Aujourd'hui, ces technologies sont à peu près développées. Le problème, c'est leur passage à l'échelle, c'est l'acceptabilité sociale. Puisque, en fait, quand on parle de réduire les risques, il y a aussi besoin d'une discussion de société sur le niveau de risque acceptable. Et là, on voit plusieurs sources de risques. Alors, ensuite, sur la modification du rayonnement solaire. Donc là, la principale technique qui est proposée, c'est d'aller injecter des aérosols soufrés dans la haute atmosphère qui ferait un petit peu parasol, qui limiterait la quantité de soleil qui arrive sur la Terre. Alors il y a aussi des projets un peu plus ésotériques, comme d'aller mettre des miroirs dans l'espace pour réfléchir de la lumière solaire. Donc il y a de nombreuses controverses autour de ces techniques, en particulier la gestion du rayonnement solaire, parce qu'en fait, c'est certaines simulations qu'on a pu faire au niveau informatique, hein, avec des modèles, on rajoute, on voit qu'effectivement on refroidit, mais ça va par exemple modifier des régimes de mousson. Donc il y a une vraie question sur, ou alors les régions dans lesquelles il y a des feux importants. Donc ça pose une première question de gouvernance. Qui a la main sur le thermostat? Quel niveau de température est acceptable? Il y a aussi donc tout un tas de problèmes de gouvernance, de géopolitique, hein, on est très loin de la technologie, mais aussi le risque du choc terminal. C'est-à-dire si, pour une raison X ou Y, on arrête d'émettre ces particules soufrées dans la haute atmosphère, une guerre mondiale, etc., bah, le réchauffement climatique va revenir et très vite. Là, avec des conséquences extrêmement importantes, on va récupérer tout le réchauffement en quelques mois, quelques années, si on arrête. L'autre impact, c'est que ça ne va pas modifier d'autres enjeux du changement climatique, comme par exemple l'acidification de l'océan, qui est liée à une absorption du dioxyde de carbone supplémentaire qu'on met dans l'atmosphère. Et enfin, des risques aussi, on va dire, au niveau éthique, de détourner l'action vers d'autres, vers d'autres actions de limitation de gaz à effet de serre, hein, l'accord de Paris qui dit qu'il faut limiter nos émissions. Alors, ce qui est, je pense, que est vraiment intéressant, c'est que ce sont un ensemble de risques qui sont difficiles à caractériser. C'est un peu de faire ce genre de technique, on pourrait presque dire d'apprenti sorcier, ça la possibilité de redistribuer les cartes des risques, et donc avec beaucoup d'inconnus. Donc, on rentrerait dans un autre territoire de risque avec ces techniques.
Vous pourriez peut-être nous donner quelques précisions. D'abord, est-ce que ce sont seulement des particules soufrées? Quelles sont les tailles de ces particules? Est-ce que c'est de la taille des particules de la pollution qu'il y a dans l'air? Ou est-ce qu'elles sont beaucoup plus petites? Et puis, est-ce que on en a suffisamment? Est-ce que à quelle distance on peut les mettre? Vous pourriez préciser un petit peu les techniques quand même?
Alors effectivement, il y a plusieurs techniques. Alors le modèle qu'on prend, ce sont les éruptions volcaniques qui, pendant une éruption volcanique, on a une émission. Alors les très grosses éruptions volcaniques, hein, la dernière qui a eu un impact notable sur le climat, c'est l'éruption de Pinatubo en 1991, où là, pendant plusieurs mois, presque à 6 mois, il y a eu un refroidissement de quelques dixièmes de degrés de la température moyenne de la Terre, puisque ces particules soufrées qui avaient été injectées dans la haute atmosphère ont fait cet effet parasol. Donc ce sont des particules très petites, hein, elles font quelques micromètres. Alors il y a, on peut en imaginer plusieurs, mais celles qui sont plus efficaces sont de la même taille que celles qui sont envoyées pendant les éruptions volcaniques, même s'il y a toute une gamme, hein, qui est envoyée. Il faut qu'elles soient suffisamment petites pour rester dans l'atmosphère, avoir un impact, parce que si elles sont trop lourdes, elles vont retomber rapidement. Mais leur temps de résidence, c'est de 1 à 3 ans. Alors que le CO2, lui, reste des centaines, voire des milliers d'années. Donc il faut en injecter en permanence. C'est pour ça qu'il faut le risque tout d'un coup de ne plus envoyer. Ben, en fait, on récupère tout l'effet réchauffant du dioxyde de carbone assez rapidement. Donc ensuite, les techniques d'injection, il y en a plusieurs. Ça peut être d'envoyer des fusées, ça peut être de les faire émettre par l'aviation. Il y a plusieurs techniques possibles auxquelles on réfléchit. Mais c'est vrai que ces techniques demandent une réflexion éthique. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'industriels, en particulier américains, qui se positionnent sur ces techniques de géo-ingénierie. Et c'est vu par un certain nombre de leurs détracteurs comme un moyen de ne pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc de jouer un petit peu à l'apprenti sorcier. Donc il est clair qu'il y a besoin d'une réflexion éthique, de gouvernance internationale sur ces questions, de la même façon qu'on en a besoin d'une, et on l'a vu avec l'accord de Paris, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, on a l'impression que c'est une technique qui peut être très dangereuse si elle est employée à très grande échelle. Mais à petite échelle, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir quand même des bonnes conséquences pour faire tomber la pluie dans des endroits très secs? Est-ce que ça peut être localisé?
Alors ça, c'est un problème ancien. Est-ce qu'on peut faire pleuvoir où on veut? Certains pays le font. Au moment des JO de Pékin, la Chine avait envoyé des fusées pour essayer de faire pleuvoir. Il n'y a aujourd'hui aucun accord dans la littérature scientifique pour montrer que ça a un impact. ou alors il est minime. La circulation de l'atmosphère est extrêmement complexe, extrêmement dynamique, et donc de vouloir avoir un impact au niveau local, c'est extrêmement difficile, puisqu'il y a toutes ces connexions, de ces vents atmosphériques relativement rapides. Donc aujourd'hui, non, on ne sait pas. Par contre, certains proposent de faire des expérimentations à petite échelle, qui posent aussi un certain nombre de questions sur le rôle de la responsabilité des scientifiques et quelles recherches on fait, quelles recherches on ne fait pas. Et le COMETS travaille sur cette question d'ailleurs en ce moment. Bon, vu cette rapidité avec laquelle l'atmosphère soit reprend ses particules et refait tomber, faire des expériences à petite échelle, ça n'a sans doute pas un impact énorme. Mais en même temps, du coup, ça complexifie de pouvoir en déterminer un résultat scientifique probant.
Oui, on pourrait revenir sur la responsabilité des scientifiques. Mais avant, je voudrais vous poser la question. Vous avez parlé d'éthique. Moi, je pense recherche militaire. On a l'impression, enfin, on sait, c'est assez bien documenté, que la géo-ingénierie a été expérimentée au départ aux États-Unis pour des applications militaires. Vous pourriez commenter là-dessus?
Alors, effectivement, ça, c'est un des débats, d'ailleurs, dans la communauté scientifique pour faire ou non la recherche. C'est des applications dual. C'est-à-dire qu'on peut décider, en imaginant une gouvernance mondiale qui pourrait fonctionner, de vouloir régler le thermostat à certains niveaux. Mais certains pays peuvent décider d'utiliser ces techniques pour leur propre intérêt. Et tant pis si ça réduit la mousson en Afrique ou en Asie de 20-25%. Donc là aussi, on revient à des problèmes géopolitiques et de gouvernance extrêmement importants, comme le sont les problèmes géopolitiques auxquels on est confronté dans d'autres domaines que juste la partie climat. Donc, tout ça pour dire qu'il y a besoin de cette vision systémique, globale. Il ne faut pas laisser quelques-uns chercher des solutions technologiques sans avoir cette vision. Et c'est là où l'éthique arrive, hein. C'est vraiment un conflit de valeurs. C'est où est-ce qu'on veut mettre le niveau de risque le plus important? De laisser le changement climatique continuer, c'est un risque. De vouloir le limiter avec ces techniques-là, c'est aussi un risque. Et donc, il y a besoin d'une discussion de société, entre les sociétés, pour savoir le niveau de risque acceptable. Et ça, il y a besoin de mettre des citoyens dans l'équation. Ce n'est pas juste un problème de chercheurs ou d'entreprises industrielles.
Mais vous avez parlé de géopolitique et de régulation. Est-ce qu'il n'y a pas encore de régulation à l'échelle mondiale pour ces techniques, pour les employer à grande échelle? Est-ce qu'il n'y a pas un moratoire? À une époque, les Anglais avaient proposé un moratoire, mais je pense qu'il n'a pas été accepté. Mais ils avaient fait toutes sortes de règles qu'ils proposaient pour qu'on arrête d'expérimenter. Au niveau mondial.
Alors, il n'existe pas aujourd'hui de moratoire sur cette question, que ce soit au niveau juste de l'expérimentation, et encore moins donc du déploiement à grande échelle. Mais effectivement, la question se pose. Il y a un rapport récent du groupe d'experts éthiques de la Commission européenne qui recommande à l'Union européenne de proposer, de mettre en place un tel moratoire au sein de l'Union européenne. Et donc, j'imagine, de lancer la discussion au niveau international, puisque c'est vraiment un problème international. Bon, l'époque dans laquelle nous vivons n'est pas propice au moratoire. On le voit sur le moratoire sur les armes qui disparaissent entre l'Est et l'Ouest. Donc, très clairement, on revient à ces questions géopolitiques. Et ça pose aussi le rôle de quelles recherches on fait. Et donc, il peut y avoir un moratoire ou au moins au sein de la communauté scientifique, pour savoir jusqu'où on fait de la recherche et comment.
À une époque, quand j'étais moi-même au COMETS, on avait réfléchi un petit peu à cette question, on avait fait un colloque là-dessus, et la réponse avait été donnée, vous serez peut-être surpris, c'était « il faut qu'on arrête, nous les chercheurs, de travailler sur ces sujets ». Parce que quand on fait quelque chose à petite échelle, et que ça peut être ensuite reproduit à grande échelle, mais ça finit toujours par arriver. Et si moi je ne le fais pas, mon voisin de bureau le fera, ou mon collègue aux États-Unis le fera, et que ce qui peut être fait va être fait. C'était un petit peu ça. Donc on avait un peu réfléchi à comment s'empêcher, parce que la réponse des chercheurs est toujours « Ah mais moi c'est mon sujet, donc j'ai envie de continuer mon sujet, pourquoi je ne le ferai pas, etc. »
Alors effectivement, ça pose la question de quelle recherche on fait. Déjà, est-ce qu'on fait de la recherche sur cette question ou pas? Et là, il y a des arguments pour et contre.
Alors, quels sont les arguments pour? Parce que les arguments contre, moi, je les vois assez bien. Mais alors, les arguments pour...
Les arguments pour, ça peut être peut-être pour limiter un niveau de réchauffement qui aurait des conséquences importantes. Il peut être important de faire de la recherche sur les moyens disponibles pour y arriver. Donc, l'autre argument pour, c'est de dire, si ce n'est pas, par exemple, la recherche publique et qui finance, qui réfléchit à ces recherches, qui fait de la publication, ce sont des acteurs privés qui vont la faire, la mettre en place, réclamer des crédits carbone, et sans avoir vu l'ensemble des impacts, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau d'impact sur les sociétés. Donc, il y a vraiment des arguments pour et contre faire de la recherche. D'ailleurs, elle a été faite, puisque dans nos modèles de climat, on a simulé de faire de la géo-ingénierie. On a vu effectivement... Ça réduit, mais on a vu aussi que ça changeait le cycle de l'eau, et avec en répartissant l'eau, et on ne revient pas à ce qui était avant le réchauffement climatique. Le système climatique est complexe, on ne peut pas revenir à la situation avant. Ça fait une situation nouvelle qui peut venir assez rapidement, si c'est mis en œuvre à grande échelle et de façon rapide. Donc en fait, je pense sur cette question, ce qui est important, les recommandations qui arrivent des différents comités d'éthique, c'est... que si une recherche doit se faire, elle se fasse de façon interdisciplinaire avec, c'est pas juste un problème technique des scientifiques du climat ou technologique, il faut mettre des éthiciens, des spécialistes de sociétés humaines. C'est vraiment une approche donc interdisciplinaire et un cadre pour qu'on parle de valeurs, de risques, de gouvernance, et pas juste de technologie ou de mise en œuvre pratique. Donc ça, c'est vraiment une recommandation importante. En fait, c'est de mieux comprendre le risque que ferait courir pour qu'ensuite il y ait une décision alors, citoyenne, démocratique dans les pays démocratiques ou dans les instances de l'ONU quand il s'agit de décider globalement d'une gouvernance internationale sur ces sujets. Mais je pense qu'il y a aussi un autre aspect du rôle des scientifiques, c'est les récits qui sont portés. On voit de plus en plus la justification à faire de la géo-ingénierie parce qu'on s'approcherait de limites. On parle de ces limites planétaires. Donc, moi, personnellement, en tant que climatologue, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas vraiment de base scientifique. Et donc, l'idée, c'est que si on s'approcherait de ces limites, vite, il faudrait faire de la géo-ingénierie. Donc, il y a un récit qui est porté par certains scientifiques, qui, je pense, ont pour objectif de faire un peu peur, hein, pour pousser à l'action, mais qui, du coup, ça devient un mauvais appui à la décision publique. Et là, les chercheurs ont peut-être un peu d'introspection à faire sur comment... mieux venir en appui à la décision et les récits portés par la société.
Éric Guillardy, je vous remercie pour vos réponses. Alors, l'Union Rationaliste renvoie au numéro 228 de Raison Présente qui s'était intitulé « Tout est-il souhaitable en recherche ?» et aussi au dernier éditorial de l'Union Rationaliste qui est publié sur son site. Donc, l'Union Rationaliste remercie à la technique Grégory Vallon, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation Claire Poinsignon. Et je vous dis au mois prochain.